Lyonnaise, ondin et néanmoins curieuse et curieux, bonjour, vous écoutez L'Onde Curieuse, votre magazine d'actualité locale en Sud-Ardèche.
Et oui, et ondine, ondin, il ne s'agit pas que d'une licence poétique, puisqu'on va parler d'eau aujourd'hui, avec une question qui agite plus que nos apéros, ça agite toute une profession, l'usage de l'eau dans la vigne. Va-t-il falloir enfin mettre de l'eau dans son vin ?
Oui, alors que l'eau, qui n'est pas qu'une ressource à notre service, vient de plus en plus à manquer, comment les vignerons du territoire réagissent-ils ? Qu'est-ce qu'ils mettent en place ? Eh bien, on en parle, puisque c'est le sujet du magazine en deuxième partie. On en parle avec Marion Moll, qui est responsable du vignoble au vigneron ardéchois. Bonjour.
Bonjour.
Et Estelle Privat, qui est viticultrice à Pradon et à Saint-Cernin.
Bonjour.
Bonjour. Mais ça, c'est après quelques actus. On commence avec cette première info capitale et directement liée à notre sujet du jour. Le démarrage d'un chantier de modernisation du réseau d'irrigation dans le secteur de Chomérac. L'entreprise Rampa, qui est en charge des travaux, nous a envoyé son communiqué de presse qui détaille, Quentin, les chiffres de cette opération.
Oui, ils expliquent un peu en quoi ça consiste. On apprend déjà que le montant total du chantier de modernisation des réseaux d'irrigation agricole est de 10 548 000 euros. Alors comme il vise à économiser l'eau, c'est-à-dire qu'il est censé résoudre les fuites qui sont détectées, qui aujourd'hui sont estimées à 2 millions de mètres cubes annuels, soit l'équivalent de l'irrigation de 1800 hectares de culture. Donc je disais, comme c'est d'intérêt public et que ça vise à économiser l'eau, c'est subventionné à 80%. Donc 30% proviennent du fonds européen, le FEDER, 30% de la Compagnie nationale du Rhône, 21% du Conseil départemental de l'Ardèche, 16% du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et 3% par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'implique peu, mais soit. Les 20% restants sont financés par le syndicat de développement d'équipement et d'aménagement de l'Ardèche, le fameux SDEA.
Oui, donc à peu près 2 millions. Bien entendu, il ne s'agit pas simplement de remplacer des tuyaux. Rampa explique qu'en plus de nouveaux tuyaux en fonte ductile réalisés par Saint-Gobain, qui remplacent les tuyaux en ciment de 1971, des débitmètres sont installés à différents points de parcours pour faciliter la détection d'anomalies sur le réseau. Alors rien de révolutionnaire, rien de bien précis non plus d'ailleurs, mais c'est là.
Oui, rien de bien précis non plus. En fait, ils ont juste annoncé qu'ils plaçaient des débitmètres à quelques lieux clés, mais ça ne détaille pas vraiment. Enfin, je m'attendais à un truc informatisé par satellite et tout, mais non, ça aurait coûté plus cher. Ce qu'on apprend enfin comme chiffre, c'est que ces 10 millions d'euros servent à financer une portion de seulement 6,2 km de tuyaux. Le ratio a l'air un peu dingue, et comme souvent dans le secteur des travaux publics, j'ai pris ma calculette et on se rend compte que le mètre de canalisation revient à 1700 euros. Je vous laisse juger si c'est un prix plutôt intéressant ou plutôt exorbitant. On n'a pas tous le même portefeuille, et en tout cas, on espère que ce chantier résoudra effectivement les fuites sur le réseau.
Oui, on n'a pas tous le même portefeuille, mais c'est quand même dans notre portefeuille
que c'est pioché.
Ça va, vous avez digéré l'ampleur du chantier. Alors on va passer à un autre chantier de bien plus petite échelle, mais qui contribue aussi à sauver les possibilités de la vie sur notre planète. L'association La Messicole à Montpezat organise un chantier de construction de ruches en paille tressée ce week-end. 2 jours d'atelier pour repartir avec une ruche légère, pratique, qui pourra accueillir un essaim et permettra peut-être aux abeilles de survivre.
Oui, moi j'avais retenu cette information parce que c'est quand même un mode de construction de ruche assez nouveau, même si c'est un des premiers modèles qu'on ait connu. Ça peut être utile pour peu que la paille en question ne soit pas imprégnée de pesticides. On espère en tout cas que le prix du stage est moins élevé qu'un mètre de tuyau d'irrigation. Toutes les infos par mail sur ce stage de samedi et dimanche à venir sur contact@messicole.fr. M2SICOLE ou sur le site www.labeillepermacole.fr.
Une autre permaculture souhaitable, c'est celle de l'esprit. Alors ce soir, au Vence, à l'étage du bar
Yggdrasil.
Merci. Yggdrasil. Venez pour exercer votre esprit critique autour de la découverte d'un texte sur les enjeux du pouvoir. Cet atelier qui se déroule tous les deux premiers mardis de chaque mois, est à la fois original et intelligent, du moins pour celles et ceux qui veulent aiguiser leurs réflexions.
Alors autant je parle très bien le viking, c'est-à-dire que je prononce Yggdrasil sans la moindre pointe d'accent. Ce soir, c'est autre chose, ce soir la réflexion se fera à partir d'un recueil de textes d'Ordre Lord.
Ordre Lord.
Le texte Sister Outsider, qui est paru en 1982 aux États-Unis, traduit en français en 2003. Et comme la semaine dernière, on n'avait pas vraiment honoré la grandeur et la pertinence d'Ordre Lord, on rattrape le coup cette semaine.
Oui, puisqu'on l'avait évoqué la semaine dernière.
Alors, donc, Ordre Lord est une essayiste, poétesse américaine, militante féministe, lesbienne, engagée dans les mouvements des droits civiques en faveur des Afro-Américains. Elle a vraiment planté les graines de l'intersectionnalité, c'est-à-dire les combats à la croisée du racisme, du sexisme, de l'homophobie et toute autre lutte contre les dominations. Et elle met au centre de ces luttes la poésie, qui a longtemps été pour elle la seule manière de communiquer et de penser. Et donc, Sophie, t'es venue avec quelques extraits.
Oui, avec quelques extraits pour vous faire entendre un petit peu cette voix. Donc sur la poésie comme moyen d'expression. Lorsque quelqu'un me demandait « Comment te sens-tu » ou « À quoi penses-tu » ou posait de but en blanc une autre question, je récitais un poème. Et l'émotion, la réponse vitale, se trouvait quelque part dans ce poème. Mon besoin de dire les choses, que je ne pouvais pas dire autrement quand je ne trouvais pas d'autres poèmes à utiliser, c'est ce qui m'a motivée à écrire.
Donc c'est extrait d'un entretien entre Ordre Lord et Adrienne Rich en 88. Et dans « Transformer le silence en paroles et en actes », elle évoque justement la nécessité absolue, cette nécessité absolue dont elle a pris conscience avec violence quand elle a su qu'elle avait un cancer.
Ainsi confrontée de force à l'éventualité de ma mort, à ce que je désirais et voulais de ma vie, aussi courte soit-elle, ce que j'ai le plus regretté, ce sont mes silences. De quoi avais-je donc eu si peur? J'allais mourir tôt ou tard, que j'aie pris la parole ou non. Mes silences ne m'avaient pas protégé. Votre silence ne vous protégera pas non plus.
Intense. Attends, je digère un peu. Un mot enfin sur l'intersectionnalité, puisque du coup elle a tenu des propos très très importants qui vont au-delà de la tolérance, mais qui tendent vers la reconnaissance réelle de l'autre.
Quand je parle de femme de couleur, je ne veux pas uniquement dire femme noire. La femme de couleur qui n'est pas noire et qui m'accuse de la rendre invisible parce que je présuppose que ses combats contre le racisme sont identiques aux miens, cette femme a quelque chose à me dire. Et je ferai bien de l'écouter pour éviter que nous nous épuisions en nous affrontant sur nos vérités respectives. Si je participe, consciemment ou non, à l'oppression de ma sœur et qu'elle m'interpelle là-dessus, répondre à sa colère par la mienne ne fait qu'étouffer la substance de notre échange. C'est du gaspillage d'énergie. Et oui, il est très difficile de rester tranquille en écoutant la voix d'une autre femme dire précisément une angoisse que je ne partage pas, ou à laquelle j'ai moi-même contribué.
C'est extrait du texte « De l'usage de la colère, la réponse des femmes au racisme ». Et surtout, Ordre Lord remet la poésie et l'érotisme au cœur du combat, parce que le désir est au cœur de la survie et de la vie.
La poésie cisèle la parole pour qu'elle exprime et guide cette exigence révolutionnaire, l'accomplissement de cette liberté. Vive la poésie.
Merci Sophie. Donc rendez-vous ce soir au bar L'Yggdrasil, Place Ollier, au Vence, pour un atelier de lecture partagée. Vous pouvez amener votre texte, vous pouvez vous contenter de venir écouter, regarder. L'entrée est libre, on vous demande simplement de prendre une petite boisson au bar.
Ouais, c'est à 19h30, ça dure à peu près 2h, 19h30, 21h30.
Ah, retour sur l'eau, pardon. Retour sur l'eau, puisque c'est la chronologie qu'il exige. Demain, donc, mercredi 10 mai, c'est le second atelier organisé par l'EPTB, le syndicat de gestion des rivières. Au programme, cette fois, une balade dans la garrigue des environs de Balazuc à la découverte des milieux secs. C'est pas merveilleux? Préparez-vous, dites-vous que l'ensemble du Bas-Vivarais ressemblera bientôt à la garrigue. Préparez-vous, on y trouve tout de même quelques richesses floristiques, hein, du thym, de la sarriette, peut-être même quelques bouquets d'origan cachés sous les cailloux.
Et de la salse pareille.
Et la salse pareille, qui pullule, la nourriture préférée des schtroumpfs et dont on appréciera les jeunes pousses, cuisinées un peu comme des asperges. En plus, voilà, c'est ça, on la trouve partout, elle ne manque pas, elle est récoltable au printemps.
Sans transition, comme dirait l'autre, ce samedi 13 mai, c'est la nuit des musées. Et tous les musées ouvrent leurs portes gratuitement. Alors, il y a le musée des Vences, par exemple, avec à 16h une visite de l'expo Trésors souterrains à la lampe frontale. Et visite des Vences sous terre à 18h. Ça, ça promet, c'est avec un spéléo, c'est 15€. Et à 21h, vous pouvez aussi profiter d'un atelier de light painting, animé par Nia del Sol. Et le musée, lui, reste ouvert jusqu'à 23h.
Autre musée de la région à Lavendorniac, c'est un jeu d'enquête grandeur nature qui démarre à 19h30, puis à 21h30. Le pitch de cette enquête, c'est retrouver le meurtrier de la conservatrice du musée.
Ils sont gonflés quand même, hein, d'avoir proposé ça à Lavendorniac. Je ne sais pas s'il y a un sous-texte.
Plus d'informations donc sur le site de Lavend, rendez-vous ce samedi.
Et à l'espace Castanea au musée de la Châtaigne à Joyeuse, vous pouvez aussi redécouvrir ou découvrir l'exposition de 18h à 20h pour une visite guidée par un véritable castaniculteur. Pourquoi tu ris ? L'occasion d'en apprendre toujours plus sur notre noix préférée et de découvrir la nouvelle version du musée local.
Et oui, un peu plus loin, c'est à Alba la Romaine. Musée Al vous invite d'abord de 15h à 17h à un atelier... Alors, ils ont une pléthore d'événements là ce samedi. De 15 à 17h, un atelier gratuit d'écriture poétique et de déclamation intitulé « Quand la poésie vous décoiffe le cœur ». De 17h30 à 20h, c'est un jeu de piste en famille avec des énigmes pour découvrir les vestiges archéologiques d'Alba. Et de 19h30 à 20h30, aiguisez vos papilles pour un repas romain organisé pour l'occasion.
Il y a un spectacle dans le théâtre antique à 20h30 avec Projet Psyché, avec deux femmes en scène entre contes, chants, sculptures vivantes. C'est dans le cadre de Parole en Festival, je précise, pour découvrir le personnage de Psyché.
Et en plus, la visite du musée à la Torche est ouverte à toutes et à tous.
Et il se trouve que la visite libre du musée, peut-être mesdames vous l'avez visité, c'est l'exposition Grande Terre de Vin, le terroir révélé par l'archéologie. Eh bien, l'eau ou le vin, c'est comme boire ou conduire, faut-il choisir ? On en parle après la réflexion musicale du jour.
Bon, la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui se bougent pour sauver la planète, pardon, pour sauver l'eau. Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat, de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Je vois passer devant chez moi dans le ruisseau des mètres cubes d'eau, de l'eau potable qui s'en va dans les égouts, dont les trois quarts au moins ne servent à rien du tout. Pourtant on nous dit que ça coûte des sous. Il y a de quoi se demander si on n'est pas devenu fou. Je vois d'ici qu'on va encore me traiter d'écolo. Mais avant ça, cousin, je viens t'expliquer le topo. Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat. Je t'ai dit de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas facile de parler d'un tel sujet. A priori, il s'agit de banalité. Mais quand soudain j'ai réalisé le danger, je me suis aperçu que ça le méritait. À cause de l'eau, on boit partout. Et oui, sur la terre, se déclarer des conflits, se déclencher des guerres. Pour quelques sources ou bien pour un bout de rivière. Et pour des peuples entiers, la vie devient un double enfer. Ma revendication est simple, elle est très claire. Alors encore une fois, cousin, je la réitère. Il me faut de l'eau pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat, de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Il faut prendre au sérieux les scientifiques quand ils nous disent que la situation est critique. Depuis plus de 100 ans, les progrès technologiques ont permis de réaliser des choses magnifiques. Mais dans le même temps, pour gagner toujours plus de fric, on fait n'importe quoi, le bilan est catastrophique. On installe n'importe où des usines chimiques, on pollue à tour de bras les nappes phréatiques. Je t'épargne les détails, tu connais la musique. Je me contente de t'expliquer la problématique. Je me contente de rappeler que l'eau est un trésor unique. Il faut le protéger et de nouveau je revendique. Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat. Je t'ai dit de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Après leur vert, leur noir, leur blanc, on nous parle de l'or bleu. Certains d'entre nous en ont trop et certains autres en ont trop peu. Cela fait trop de mécontents, cela fait trop de malheureux. Si ça dure encore longtemps, l'avenir sera désastreux. Pour de tous les éléments et celui qui me plaît le mieux, j'aime me prélasser dedans, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat. Je t'ai dit de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Je t'ai dit de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Il me faut de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Il me faut de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Il me faut de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Il me faut de l'eau.
De l'eau, de l'eau, de l'eau, vous avez reconnu la voix de chanteur de Massilia Sound System. C'est un morceau qui est sorti de son nouveau projet qui s'appelle Papetji.com. Merci pour la découverte, Sylvain.
Et, rien.
Et on a appris du coup qu'il sort un album le 26 mai. Donc vous pouvez déjà écouter un extrait sur YouTube et puis bah, garder les oreilles ouvertes. C'est l'heure de, bah, d'accueillir nos invités du jour. Bonjour Marion, bonjour Estelle.
Bonjour.
Ah. Oui, alors donc on va parler de d'eau et de vignes. Comment ici en Sud-Vivarais on utilise l'eau dans la vigne face aux enjeux. Juste une petite chose, tu voulais Estelle rebondir sur la garrigue dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, notamment les visites dans la garrigue, c'est très bien. Et puis aussi vous avez parlé de la nuit des musées qui va se dérouler ce week-end. Juste ouais. Une petite aparté, on espère que la vigne ne deviendra pas seulement une zone touristique de balade ou carrément un musée à ciel ouvert.
On viendra voir ce qu'était la vigne en Sud-Ardèche. Alors justement, vous êtes là, vous faites toutes les deux parties des vignerons ardéchois. Marion Moll, tu es responsable vignoble, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui.
Est-ce que et toi Estelle, tu es viticultrice installée depuis peu ?
Oui, depuis 2020 et j'ai été pendant un an en 2019 justement tutorée par les vignerons ardéchois.
D'accord. Alors les vignerons ardéchois, simplement qu'on resitue, vous représentez à peu près 80% des vignerons, c'est ça, sur le territoire ?
Oui, 85% des volumes d'IGP Ardèche.
C'est quoi l'histoire alors de cette union des vignerons ?
Alors, ça date d'il y a longtemps. C'est les vignerons qui ont décidé de réunir leurs forces pour créer un outil de mise en bouteille et de commercialisation. Et là, actuellement, ça regroupe 12 caves coopératives. Il y a plus de 600 vignerons sur 6000 hectares de vignes. Et on est présent dans tout le sud Ardèche.
Alors justement, quel rôle a la coopérative dans l'accompagnement, les conseils donnés aux viticulteurs, justement, notamment dans l'utilisation et dans l'usage de l'eau ?
Alors actuellement, c'est plutôt expérimental, parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup non plus de vignes irriguées. C'est difficile d'avoir les chiffres exacts, mais on est sûrement à moins de 10% des vignes qui sont irriguées. Et
ChatGPT avait raison.
Ah bon ?
J'ai fait le test, je lui ai posé la question et il m'a proposé 8% de vignes. 8% de vignes.
Voilà.
En comparatif, simplement, en Espagne, on est à 30% d'irrigation. Et dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon, on est à 20%, un cinquième.
D'accord.
Donc, vous confirmez, c'est ici en Ardèche, l'irrigation, c'est donc moins de 10%. Est-ce qu'il y a une évolution ou pas ?
Alors là, actuellement, c'est plutôt les ressources en eau qui bloqueraient. Parce qu'il faut trouver l'eau, il faut la mener jusqu'à la vigne. Et après, du coup, on peut parler d'accompagnement, effectivement, à l'irrigation. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas tout ça, c'est compliqué de voir comment procéder. Par contre, on sait que c'est quand même un enjeu majeur de notre territoire. Et c'est pour ça qu'on a quand même commencé à étudier différentes méthodes pour gérer cette eau, en fait. On sait qu'un jour, si on l'a, il va falloir la gérer et utiliser le minimum possible.
Et ça concerne pas tous les cépages, c'est ça ?
Oui, alors en fait, on a différents types de production. On a des, on va dire qu'on a des productions en blanc aromatiques qui ont besoin d'eau. Et après, des productions en rouge avec peu de rendement qui ont moins besoin d'eau. Donc, c'est... Voilà. Après, ça va dépendre aussi du changement climatique. Si, à un moment donné, les conditions sont extrêmes et qu'on n'a même plus de pluie au printemps, là, ça va être compliqué pour la croissance de la vigne, sans parler de raisin.
Mais est-ce que vous anticipez ça ? Parce que ça, c'est vraiment, c'est un scénario qui est quand même assez probable. Est-ce que ça, vous... Est-ce que et comment vous l'anticipez dès aujourd'hui ?
C'est-à-dire qu'on a peu de recul, parce que finalement, même dans les caves, ils nous disent qu'ils sont en train de découvrir aussi l'impact de la sécheresse, mais aussi des canicules qu'on a connues ces dernières années, qui ont un impact sur l'organoleptique, sur les vins. Et voilà, je pense qu'il y a aussi le temps à se donner. Voilà, faut des fois pas vouloir non plus se précipiter. Voilà, il y a aussi des cépages qui sont proposés, mais quand des cépages sont proposés, il faut le temps de la recherche de ces cépages, de l'implantation, de voir si ça climate malgré tout quand même à nos latitudes. Et voilà, tout ça prend du temps, et comme on dit, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
Donc ça, c'est une partie, une facette du problème, c'est-à-dire peut-être planter des cépages existants déjà et qu'on va davantage planter dans ces zones qui demanderont moins d'eau, soit autre facette aussi du problème, travailler sur des cépages résilients, résistants, qui pour l'instant n'entrent pas encore dans la composition de vin. Est-ce que c'est un peu ça ?
Alors, pour l'enjeu eau, c'est plutôt des cépages qui existent déjà, qu'on va aller plutôt chercher soit dans le sud de la France, même des vieux cépages oubliés qui reviennent au goût du jour, parce que du coup, beaucoup plus adaptés au changement climatique.
Comme
les Carignan, Cinsault, tout
ça. Voilà, et par exemple, le Chatu qu'on a en Ardèche, qui a mûri très tardivement et que du coup, c'est de mieux en mieux avec les années. Donc voilà, on parle beaucoup de la counoise aussi, qui est résistant au sec aussi.
Qui est originaire d'où
La counoise, c'est le Var, Provence.
D'accord.
Voilà.
Et ça, ça représente encore pour l'instant combien ces cépages, on va dire, moins gourmands en eau, ça représente combien des cépages qui existent actuellement ? C'est assez
en plantation,
faible.
Ouais. Oui, c'est très faible. Oui. Nous, ça représente moins de 5% de notre vignoble, parce que c'est vrai que, comme on disait, c'est le marché aussi qui nous dirige un peu sur les volumes de vin que l'on fait. Mais ça ne nous empêche pas de mettre en place des plantations expérimentales pour proposer d'autres vins.
Et OK. Et Stelle, pour ton installation, toi, t'as été accompagnée du coup de Vignerons par Nature et les Vignerons Ardéchois. Et t'as non.
Pas Vignerons par Nature.
Ok, c'était un article sur leur site, mais ouais. Enfin, qui traitait de toi.
C'est un label
Ardèche par Nature. Ouais. Ok.
Mais et c'était surtout avec Ardèche Vignoble, en fait. Ardèche Vignoble, qui est une SIC permet aux jeunes, du coup, de pouvoir s'installer sans avoir à acheter tout de suite des terres avec des vignes et tout ça, qui est quand même assez coûteux.
Et donc là, tu es installé sur un vignoble qui était déjà en place et qui était déjà fonctionnel.
Oui.
Et c'est quoi comme cépage?
Alors, principalement, on est sur Viognier, Syrah, Grenache, un petit peu de Merlot et un petit peu de Carignan et de Cinsault.
Et un peu de Carignan et de Saint-Saulve, ok.
Deux parcelles, c'est pas beau.
Ouais, c'est un début. Et du coup, on te fait déjà... Enfin, t'envisages déjà la possibilité de remplacer certains cépages par d'autres, ou est-ce que l'idée, c'est de commencer à utiliser de l'eau et...
Alors, donc, sur Pradon, les vignes, mon prédécesseur, avait bien maintenu son vignoble, donc elles ont moins d'une dizaine d'années pour la plupart, sauf effectivement cette parcelle de Cinsault et de Carignan, mais du coup qu'on n'arrache pas tout de suite, malgré leur âge. Et par contre, le reste c'est récent, donc on va pas immédiatement les arracher quand même.
Et là, t'envisages la saison d'été de quelle manière? Est-ce que tu penses utiliser plus d'eau que... Ça dépend vraiment le jour de...
Moi, j'ai pas d'eau de toute manière sur cette zone-là, donc je peux pas l'utiliser. Ouais. J'espère juste qu'il pleut. Oui. Et,
Donc tu es entièrement dépendante de ça, de l'eau de
pluie. Voilà. Mmh. Après, bon, on a eu quand même pas mal de pluie. On a eu un épisode Cévenol à l'automne. Voilà, je garde espoir qu'on en aura d'autres. Et voilà, enfin, la vigne, il faut se dire quand même que malgré tout... Enfin, moi, j'ai peu de recul, parce que ça fait que 3 ans que je suis installée, mais je perçois quand même qu'il y a une petite résilience quand même de la vigne. Alors, bien sûr, on a changé un peu les méthodes. Là, cette année, par exemple, on a griffonné, puisque l'année dernière, j'ai des voisins qui ont fait ça, et en fait, ça... Ça permet de limiter l'évapotranspiration du sol. Mais par contre, effectivement, en cas de canicule, le sol est très chaud, contrairement à si on avait un sol avec de l'herbe. Donc en fait, c'est toute la complexité de notre métier, en fait, où il faudrait anticiper, il faudrait avoir une boule de cristal pour savoir si ça va être une année sèche, caniculaire, pluvieuse. Parce qu'après, on a beaucoup de mécanisation de plus en plus, puisque des produits sont retirés, donc notamment pour les pamprages. Et voilà, on ne peut pas non plus rentrer toujours dans une parcelle si on a un été pluvieux. Ouais. ça devient compliqué.
Et du coup, les méthodes de paillage, de culture intercalaire qui pourraient retenir l'eau, est-ce que c'est envisagé
Alors, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on prépare un petit peu une saison, nous, on a quand même 30 hectares. Ouais. C'est difficile aussi de changer les pratiques. Des fois, on peut faire quelques tests, mais déjà, on a le métier à apprendre qui est complexe. Et changer les méthodes d'une année à l'autre, il faut l'anticiper, c'est pas toujours évident.
Voilà. Et est-ce que justement, c'est pas l'un des enjeux de l'accompagnement des vignerons ardéchois, c'est-à-dire de tester, d'expérimenter des méthodes et de les proposer aux vignerons de la coopérative?
Oui, actuellement, on a beaucoup d'engrais verts. Enfin, c'est ce que vous parliez, du coup, c'est en train de se développer fortement. On essaye de faire un peu des formations là-dessus. Et on sait qu'une des composantes importantes pour la résilience à la sécheresse, c'est la matière organique dans le sol. Mmh. Et donc, du coup, voir comment on peut améliorer cette matière organique, mais pas en faisant n'importe quoi, parce que c'est vrai que les engrais verts, ça pompe de l'eau aussi, des nutriments. Donc, il faut atteindre un niveau de technicité assez important pour pouvoir maîtriser tout ça. Et après, on essaye de mettre en place différents essais. On fait partie d'un réseau qui s'appelle Adapténué. Et du coup, c'est un réseau de parcelles où on combine deux facteurs qui limiteraient le manque d'eau. Voilà. Donc entre cépages, matières organiques, on peut avoir des applications aussi de talc qui pourraient éviter que les feuilles
brûlent. Ouais.
Voilà, sur les feuilles. L'achillée millefeuille aussi a des vertus contre le sec. Voilà. Il y a plein de choses à explorer.
Nous, l'année dernière, par exemple, on a essayé la glycine bétaïque et ça a bien marché. Enfin, il nous semble que ça a marché quand même un petit peu aussi. Voilà, mais en fait, on fait des tests et, et malheureusement, vigneron ardéchois, oui, il y a Terra Noé, mais vous ne pouvez pas non plus tout expérimenter là. Donc, c'est aussi à chaque vigneron, je dirais, de tester. Et aussi, on a tous des terroirs différents. Donc, là aussi, ça rentre en compte. Et
oui, parce qu'il y a des sols aussi qui sont plus gourmands en eau que d'autres.
Oui. Et c'est vrai que tout ce qu'on fait actuellement, ça permet de limiter. Mais on a peur que dans des cas vraiment extrêmes, ce soit plus suffisant, en fait.
Et vous mettez en commun, il y a une mise en commun des différentes recherches qui sont menées. Ouais, c'est formalisé et... On sait que sur telle parcelle, parce que je me dis 600 vignerons membres, il doit y avoir de quoi expérimenter. Il doit y avoir de quoi expérimenter. Est-ce qu'il y a des relevés qui sont faits sur telle méthode
On essaye, mais c'est vrai que c'est plutôt sporadique. Ouais. il faudrait du temps pour récupérer toutes les informations. Et c'est un peu des projets qu'on a, mais il faut le temps de le mettre en place.
Aujourd'hui, tous les vignerons, tous les viticulteurs des vignerons ardéchois ont conscience de ce problème d'eau. Est-ce qu'ils ont conscience qu'il faut économiser l'eau tous? Ma question est peut-être une question naïve, mais.
Oui, dans l'ensemble, quand même, ils sont conscients d'un millésime sur l'autre. Ils voient bien que ça se complexifie. Et ils ont tous des voisins, donc ils ont tous... tout le monde les regarde. Ils savent qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils font et qu'on ne leur pardonnera pas une erreur. Donc c'est vrai que, justement, je pense que... Dans ce milieu, ils ont encore plus conscience, plutôt qu'un particulier qui va aller arroser son jardin et laisser ouvert le robinet, un agriculteur, il va faire attention parce qu'après, il sait tout de suite qu'il peut être dénoncé. Donc, voilà.
Mais comme vous le disiez justement, hors antenne avant de commencer, et puis vous l'avez un petit peu évoqué, il y a le comportement des viticulteurs, des vignerons, mais il y a aussi le comportement des consommateurs. Et c'est le marché qui fait un petit peu la tendance et qui demande un petit peu certains types de vins qui nécessitent plus ou moins d'eau dans la culture. Et là, il y a aussi un enjeu. Il faut peut-être orienter, comme les vignerons ardéchois est une grosse structure qui peut éventuellement orienter un petit peu, on le sait, hein, les choix des consommateurs. Il y a sans doute un enjeu aussi là-dessus, c'est-à-dire proposer aux consommateurs de s'orienter plus vers des cépages, par exemple, ou des types de cultures moins pourvoyeuses en eau.
Oui, on a une certaine marge de manœuvre, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de marchés où on n'est pas en contact directement avec le consommateur. Et c'est quand il y a des intermédiaires où là, ça devient un peu plus difficile. Parce que l'intermédiaire souhaite une certaine production. Et du coup, c'est plus difficile de proposer autre chose. Mais par contre, c'est vrai qu'en direct, on a tous nos caveaux... Dans le sud Ardèche, c'est beaucoup plus facile de proposer autre chose.
Et moi, en tant que consommatrice, par exemple, si je veux justement essayer de faire attention à ça, vers quel type de vin faut-il que je m'oriente?
Un chatu.
Mais c'est assez amusant parce que du coup, c'est aussi le cépage noble. Enfin, c'est celui qui est mis en avant comme étant un cépage noble et c'est notre vin de terroir. C'est né à Vernon, je crois, le chatu, c'est ça?
Oui, c'est la commune historique, on va dire.
Bah oui, du coup, tu le mentionnais comme étant une espèce particulièrement résiliente. Peut-être que c'est pas pour rien. Et en fait, c'est assez récent. Il me semble aussi l'implantation de Merlot, de Syrah dans la région. Je crois que ça a une trentaine d'années. Et, Et du coup, peut-être qu'on va se retrouver à revenir vers les vignes d'avant.
Bah, c'est vrai que le merlot a été implanté à une époque parce que c'est un cépage qui mûrit facilement, qui monte rapidement en degré. Mais là, on change d'enjeu. Donc du coup, c'est vrai que maintenant, le merlot paraît moins adapté. Mais le problème d'une vigne, c'est que quand on la plante au moins pour 40 ans. Et ouais. Du coup, on ne peut pas faire des virages à 180 degrés tout
pas
le temps.
Pas à répétition, voilà. Mais on sera peut-être amené à faire un vrai virage pour les 40 années qui viennent.
Oui.
Et ça représente quelle surface, là, du coup, les nouveaux vignobles qui utilisent des cépages du sud les...
Alors là, nous, on a une parcelle expérimentale de 1 hectare où on a regroupé des vignes étrangères. Donc plus là, on est parti plus à l'étranger. Et un cépage auvergnat qui apparemment est résilient au sec. C'est voilà, le noir fleurien.
D'accord.
Et après, si on part sur 5%, ça doit représenter une centaine d'hectares, je pense, de...
Il y a ces cépages, mais il y a aussi d'autres cépages traditionnels, comme on disait tout à l'heure, du sud de la France, Carignan, Saint-Sault, etc., qui
Mourvèdre.
Sont un petit peu plus Mourvèdre,
oui.
Qui sont un peu plus...
Mais ça, on les a de façon plus régulière dans les caves. C'est des cépages qui étaient déjà présents.
Et cette parcelle expérimentale, elle est située où? Elle est sur quel sol?
Alors, elle est située donc sur notre domaine Terra Noé, donc à Roche-Colombe.
Okay.
Et elle est sur un sol de galets sable. Sable galets de rivière.
Donc ça retient pas beaucoup l'eau, c'est ça?
Non, ouais, c'est très drainant.
Mais il faut s'attendre à du coup des changements dans les vins d'Ardèche. Les vins d'Ardèche ne seront plus ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est en évolution. On sent bien que voilà, tout est en attente, en expérimentation. Mais c'est un sujet passionnant. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, après, il faut quand même pas noircir tout le tableau non plus de l'irrigation. Voilà, si parfois on peut la mettre en place, ça peut aussi quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a quand même des cépages des fois qui sont déjà implantés et que si on leur apportait un petit peu d'eau au moment opportun, deux fois dans l'été par exemple, ça pourrait quand même sauver une partie de la récolte et aussi de la qualité de certains vins. Voilà, on a été confronté l'année dernière quand même à certaines parcelles qui étaient complètement bloquées en termes de maturité. Donc voilà, il ne faut pas noircir non plus complètement le tableau. Et voilà, il y a peu de temps, il y a eu une réunion avec la préfecture et je pense que voilà, il faut continuer à pouvoir accompagner certaines zones pour pouvoir retenir l'eau qui, de toute manière, elle partira dans la mer Méditerranée. Donc autant peut-être en stocker un petit peu sur notre territoire.
Ouais, c'est dans les options étudiées. On en reparlera dans l'onde curieuse. On a des dossiers sur l'eau qui viennent un peu tout au long de la saison. C'est aussi, je pense, la manière d'irriguer qu'il va falloir réfléchir, parce que moi je sais que personnellement ça m'a choqué, mais l'été dernier je voyais à 15h une parcelle de vigne arrosée au jet en l'air. Alors outre l'évaporation, ça brûle les feuilles, enfin je comprends pas, la logique m'échappe. Mais je suis content de voir que la question est réfléchie et que c'est un sujet qui est abordé sérieusement. Je suis désolé, on va arriver doucement vers la fin de cette émission. Vous vouliez ajouter quelque chose l'une ou l'autre?
Non.
Non, c'est bon.
Merci.
Buvez
du vin. Merci de nous avoir écoutés. Et buvez du vin.
Du vigneron ardéchois.
Du vin rouge.
Du Chatu. Buvons du Chatu.
Et c'est la fin doucement de cette onde curieuse. Après un jour, un lundi férié, nous sommes donc le mardi. La suite du programme, Sophie.
Bon, on commence à 15h le Telex avec vos annonces.
Au 04 75 93 30 25, ça finira par rentrer. Hein.
À 17h, la rediff de l'onde curieuse si vous n'avez pas tout entendu. Rediff à 17h et dès 18h en replay sur fréquence7.net.
À 18h, c'est un nouvel épisode de Polémix et la voix off sur consacré au groupe de punkettes les Vulva Assassins qui ont un succès grandissant grâce à leur chanson de manif La retraite à 60 ans. Voilà, c'est elle.
Et à 20h, salut à toi avec la rediff du spécial Crash Musette qui aura lieu. Donc le Crash Musette qui aura lieu...
C'est la fin de semaine prochaine, le 19-20-21, à La Voulte-sur-Rhône. J'y serai et les Vulva Assassins y seront aussi.
Et à 21h, sur Fréquence 7...
C'est Metal Zone avec cette fois une interview du groupe Otargos.
Merci beaucoup, merci Marion Moll, merci Estelle Priva d'être venue nous parler de l'eau et de la vigne. Merci Sylvain, merci Quentin.
Merci Sophie, merci la vie, bon après-midi et à bientôt.
À jeudi.
Ah oui, jeudi. Ouais.